Vous êtes sur RTL.
Et 18h. Et on vous retrouve Marc-Olivier Fogiel, RTL Soir.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Jonathan Daval charge encore sa belle-famille. Face au juge, le meurtrier présumé de son épouse Alexia a maintenu sa version. Pour lui, c'est toujours un complot familial. Oui, selon lui, c'est son beau-frère Grégory qui aurait tué Alexia Daval. Et c'est la propre sœur d'Alexia qui lui aurait dicté le scénario de la disparition de la joggeuse. Mais pour la justice, cette thèse ne tient pas. Une complicité serait même exclue. Alors dans RTL Soir, on va vous raconter ces 5 heures d'audition. Et à 18h20, la mère de Jonathan Daval témoigne sur RTL. Comment réagit-elle aux derniers éléments de l'enquête, notamment la découverte d'un cheveu lui appartenant dans le coffre de la voiture de son fils? Continue-t-elle de croire à son innocence? Martine Henry sera notre invitée. RTL Soir, première édition. Ce soir avec vous, Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Discuter avec les gilets jaunes, d'accord, mais avec lesquels? La question reste entière à Matignon, à la veille d'une réunion avec les représentants des manifestants. Les gilets jaunes qui appellent toujours à un acte 3 sur les Champs-Élysées samedi. Inquiétude sur l'avenue où l'on craint de nouvelles violences. Emmanuel Macron lui dit vouloir redonner toute leur place aux classes moyennes. C'est une décision de justice qui pourrait changer la vie. Les coursiers à vélo, ceux qui livrent pour les enseignes Deliveroo ou Uber Eats, la Cour de cassation estime qu'ils sont des salariés comme les autres. L'État investit 240 millions d'euros pour lutter contre le logement insalubre à Marseille. Annonce faite 3 semaines après le drame de la rue d'Aubagne. Donald Trump lâché par son ancien avocat aux États-Unis, il reconnaît avoir menti devant le Congrès sur ses contacts avec les Russes lors de la campagne présidentielle. La bourse de Paris termine en hausse, ce soir plus 0,46%. Le CAC 40 s'établit à 5006 points. Et puis les courses à Deauville, il fallait jouer le 4, le 5, le 8, le 3 et le 11.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, une nouvelle à vous couper l'appétit, des matières fécales retrouvées sur tous les écrans tactiles du McDo à Londres. Mais les fast-foods sont-ils les seuls concernés? 18h25, direction les coulisses de l'actualité, la Calas ressuscitée sur scène grâce à un hologramme, on vous amène en coulisses d'un récital 2.0. 18h30, Alain Duhamel, et ce soir, le dilemme d'Emmanuel Macron, renoncement ou ressentiment. 18h35, Jean d'Ormesson, les yeux dans les yeux, un an après la mort du plus populaire des écrivains français, Laurent Delahousse lui rend hommage dans Monsieur, son tout premier film documentaire au cinéma. Donc Laurent avec nous tout à l'heure. 19h15, 20h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Encore de la pluie pour demain et de la douceur.
Toujours ce défilé de perturbations, alors avec de la pluie pour demain, surtout sur les régions de l'Est, entre le Nord-Est, la Méditerranée et en Occitanie, des pluies parfois soutenues et même orageuse tout au long de la journée entre les Cévennes et la Provence, et de la neige sur les Alpes et les Pyrénées vers 1500 mètres. Sur l'ouest du pays, matinée très nuageuse, et puis dans l'après-midi, ce sera un ciel changeant avec alternance d'averses et d'éclaircies, et ces averses seront plus marquées dans le sud-ouest, le tout dans la douceur, 1 à 11 degrés pour demain matin, et 9 à 17 dans l'après-midi, 9 à Strasbourg, 13 à Paris, Brest et Toulouse, et 17 à Ajaccio.
À tout à l'heure, Patricia.
RTL Soir.
Jonathan Daval, de nouveau face au juge aujourd'hui, entendu pendant plus de 4 heures, il continue de nier le meurtre de sa femme.
Principal suspect du meurtre d'Alexia, retrouvé morte en octobre 2017, Jonathan Daval a une nouvelle fois accusé son beau-frère, Grégory Gay, d'être l'auteur du meurtre. Yannick Holland, l'informaticien de 34 ans, a maintenu intégralement sa version des faits.
Oui, en tout cas, sa dernière version, celle du meurtre d'Alexia par son beau-frère, puis d'un pacte familial pour dissimuler sa mort. Jonathan Daval n'a esquivé aucune question pour maître Samuel Estève, l'un de ses avocats.
Jonathan Daval a répondu à toutes les questions de juge d'instruction, quand il le pouvait. Quand il ne peut pas répondre, il ne répond pas, évidemment. Je parle des gestes qui ont causé la mort d'Alexia. Il ne va pas se livrer à une reconstitution qui serait totalement artificielle, puisqu'il dit qu'il n'a commis aucun de ces gestes.
Au cours de cette audition, Jonathan Daval est apparu très fatigué, amaigri, particulièrement touché par ses insinuation sortie dans la presse sur sa mère, dont un cheveu a été retrouvé dans le coffre de la voiture qui a servi à transporter le corps d'Alexia.
C'était évidemment très difficile pour lui, mais c'était, j'imagine, le but recherché, de faire mal. Donc c'est très difficile, bien sûr. Il en souffre parce que, évidemment, on attaque en quelque sorte sa mère, bien sûr. Mais trouver un cheveu de la mère de Jonathan dans la voiture qu'utilisait Jonathan, ça n'a aucun intérêt.
Et effectivement, pour les enquêteurs, ce cheveu n'est absolument pas considéré comme une piste. En revanche, on confirme que les éléments convergent tous vers Jonathan. Désormais, tout le monde attend les confrontations la semaine prochaine entre la famille d'Alexia et Jonathan, des confrontations qui pourraient s'avérer décisives pour enfin savoir la vérité.
À Besançon pour RTL, Yannick Collant. Et dans 15 minutes maintenant, donc, Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, sera notre invitée.
Fin de garde à vue pour le haut fonctionnaire du Sénat soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Benoît Kendé est actuellement face au juge d'instruction chargé de ce dossier. Il avait été interpellé dimanche soir. Le parquet de Paris a requis son placement sous contrôle judiciaire.
Une réunion, oui, mais avec qui? Beaucoup de questions la veille de cette rencontre entre Édouard Philippe et les Gilets jaunes.
Le Premier ministre a proposé de recevoir une délégation demain à 14h, une tentative de dialogue pour sortir de la crise. Mais voilà, l'exécutif a bien du mal à savoir qui viendra parmi les militants. Même à Matignon, tout ça reste très confus, Olivier Bost.
Oui, Matignon a envoyé 8 invitations aux porte-parole auto-désignés des Gilets jaunes. Et pour l'instant, 2 ont déjà décliné. Ils l'ont fait savoir dans des messages postés sur les réseaux sociaux. Les conseillers d'Édouard Philippe ont reçu 4 confirmations à l'heure qu'il est. Plus que leur nombre, le plus important pour le Premier ministre, c'est d'avoir une délégation représentative du mouvement. La réunion demain ne devrait pas s'éterniser. Officiellement, les Gilets jaunes ne sont pas reçus par Édouard Philippe pour faire part de leurs revendications. Le Premier ministre veut parler de méthode pour la grande concertation. Autrement dit, voir comment les Français peuvent être entendus dans les 3 mois qui viennent, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Ce matin, Édouard Philippe a posé la question aux représentants des élus locaux. Leur réponse, ils veulent un geste du gouvernement pour que les consultations se passent bien. Certains élus ont suggéré de ne pas augmenter les carburants le 1er janvier. Ça, on sait que la réponse est négative jusqu'à nouvel ordre. Et demain, avec les Gilets jaunes, la liste des demandes risque d'être un peu plus longue.
Olivier Bost du service politique de RTL. Des Gilets jaunes qui promettent toujours un acte 3 de leur mobilisation samedi sur les Champs-Élysées.
Après les images de chaos qui ont tourné en boucle le week-end dernier, les hôtels et grands magasins de l'avenue qui ont dû baisser le rideau face aux casseurs, c'est tout ce quartier huppé de Paris qui s'inquiète de possibles nouveaux débordements dans 2 jours. Les autorités ne savent pas encore si elles boucleront l'accès à l'avenue, ce qui nécessiterait le déploiement de quelque 3000 policiers et gendarmes sur les seuls Champs-Élysées. Les élus locaux, eux, redoutent un nouvel épisode de violence. Jeanne d'Auxerre, maire Les Républicains du 8e arrondissement.
Je suis inquiète. Venir manifester encore samedi sur l'avenue des Champs-Élysées, les commerçants ont subi énormément de dégâts pour des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas bon pour l'image, ce n'est pas bon pour le commerce, ça pénalise l'économie et puis surtout pour le tourisme. Il faut maintenant que chacun puisse être complètement responsable. C'est la France, c'est Paris bien sûr, c'est l'avenue des Champs-Élysées, mais ce sont les intérêts des Français, les intérêts de la France à l'extérieur, l'image que nous véhiculons, toutes ces images qui ont été diffusées sont terribles pour nous, pour les Français. Nous représentons la France au niveau national et au niveau international. Mais j'ose espérer jusqu'à la dernière minute qu'il y ait négociation pour que cela ne se passe pas.
Jeanne Hautserre, donc c'est la maire du 8e arrondissement de Paris avec Arnaud Touche pour RTL.
François Hollande, lui, ira rencontrer les Gilets jaunes demain matin à Montauban. L'ancien chef de l'État en a déjà croisé aujourd'hui en Ardèche. Rencontre apaisée au cours de laquelle il a défendu son bilan.
Son successeur, lui, Emmanuel Macron, est en Argentine pour participer au G20, mais il est rattrapé une nouvelle fois par la politique intérieure.
Le chef de l'État a été interrogé sur cette image qui lui colle à la peau, celle d'un président des riches. En pleine crise des Gilets jaunes, il a assuré vouloir redonner toute leur place aux classes moyennes.
Beaucoup de nations ont à faire face à un défi. C'est celui de la capacité à ce que nos travailleurs, nos classes moyennes, retrouvent pleinement leur place dans cette mondialisation. La mondialisation qui ne cesse de croître, cela a fait exploser partout dans le monde les inégalités. Mais surtout, ça a plongé nos sociétés dans le doute. Et la France n'échappe pas à ce doute. C'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Mais la question qui nous est posée, c'est comment les classes moyennes, au sens large du terme, qui sont historiquement le fondement de nos démocraties, retrouvent pleinement leur place dans une mondialisation qui a changé de nature.
Emmanuel Macron, donc avec Christophe Decroix, l'envoyé spécial de RTL en Argentine.
Le président français qui a également fait savoir qu'il rencontrera le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, en marge de ce G20.
RTL soir à 18h08.
On va marquer une pause et dans un instant, et si les coursiers à vélo, vous savez, ceux qui livrent vos plats, devenaient des salariés comme les autres.
Taille sur dsautomobile.fr.
18h10, RTL soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal de Céline Nontreau.
Pour la Cour de cassation, Céline, les livreurs de repas à vélo sont bien des salariés comme les autres. Une décision de justice qui pourrait faire jurisprudence.
Les juges ont en effet établi le lien de subordination entre l'ancienne société de livraison de repas, Take It Easy, et l'un de ses coursiers à vélo, considérant qu'il n'était pas auto-entrepreneur, mais bel et bien salarié. Si cet arrêt était généralisé aux autres plateformes, c'est tout le modèle du secteur qui se verrait chamboulé. Adine Courson, vous êtes allée, vous, rencontrer l'un des principaux intéressés, Michael Coursier, depuis 2 ans et demi.
Oui, et pour ce trentenaire, ce métier, c'est un vrai ses choix de vie.
Nous, on aime vraiment ce métier. Moi, je fais partie de la première vague de coursiers. Avant, je travaillais dans la banque. Je voulais un peu plus d'avantages pour ma vie privée, etc. Et j'ai cherché et puis j'ai trouvé cette activité qui me convient parfaitement parce que je prends mes vacances quand je veux, j'ai de la flexibilité, etc.
Mickaël travaille presque 7 jours sur 7 pour un salaire brut de 100 euros par jour, un plaisir selon lui. Mais le cycliste a vu ses conditions de travail se dégrader, baisse de revenus, temps de parcours plus long. Alors il attend beaucoup de cette décision de justice.
Moi ce qui me plairait, ce serait aussi que les politiques bougent. Il faut différencier l'entrepreneur lambda qui va créer tout de A jusqu'à Z de ce qu'on pourrait appeler un tâcheron qui va être payé pour une tâche qu'il va effectuer. Et nous on est plutôt dans cette deuxième catégorie et je pense que ce serait bien d'avoir un statut qui se rapproche du salariat, quoi. Si on peut avoir la flexibilité et travailler en même temps avec autant de sécurité, c'est mieux.
Pourtant, il reste sur la réserve.
Le seul truc qui fait peur, c'est qu'on est dans un monde quand même, enfin le monde des startups, etc. C'est un monde particulier. Si jamais on est tous salariés, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont pas vendre la boîte? Est-ce que nous, on va travailler autant qu'avant, etc. Je me pose plein de questions au final.
Comme lui, la plupart des livreurs que nous avons contactés espèrent surtout conserver leur liberté.
Reportage RTL signé Adeline Courson. L'État sort le carnet de chèques pour lutter contre le logement insalubre à Marseille.
Trois semaines après l'effondrement d'immeubles qui a fait effet à 8 morts rue d'Aubagne, et alors que près de 1500 personnes délogées vivent aujourd'hui à l'hôtel, la métropole marseillaise a présenté un plan hier, un investissement de 600 millions d'euros réparti entre l'État et les collectivités locales. Engagement entériné aujourd'hui par Julien Denormandie, le ministre du logement. L'État va débloquer 240 millions d'euros. Une annonce faite après une visite du quartier de Noailles, quartier sinistré que vous avez suivi, Étienne Baudu.
Oui, écoutez, à peine fini sa visite avec les experts qui auscultent les immeubles insalubres, Julien Denormandie a été interpellé par les habitants de Noailles. Kamel a même réussi à entraîner le ministre dans son snack déserté par les clients depuis trois semaines. Il se trouve juste au milieu d'immeubles évacués. Il est désespéré.
J'ai plus personne. Ouais. Je travaille plus. J'en peux plus. J'ai
et
des
ça,
enfants.
Il y a un mois, il y avait beaucoup de personnes ici.
Il y avait énormément de personnes qui venaient manger, regarder. Ouais. Il y a personne.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse rapidement.
Il est midi. Il y a personne. Il n'y a pas un chat.
Agir rapidement, le ministre n'a cessé de le répéter. Aujourd'hui, le ministre qui veut pousser les collectivités locales à rattraper le temps perdu.
On a une urgence, c'est de faire en sorte que la mairie et la métropole, qui ont la responsabilité de ces relogements, puissent accélérer. Donc je suis venu à la fois pour mettre des appuis et faire en sorte qu'il y ait une organisation ferme. Je proposerai notamment que chaque jour, je dis bien chaque jour, il y ait une réunion de suivi qui se passe à la préfecture, présidée par le préfet ici, pour s'assurer que ça aille beaucoup plus vite. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut organiser toute la réhabilitation du centre-ville marseillais. La mairie, la métropole, ils ont présenté un plan. Mais moi, je veux qu'on aille beaucoup plus vite.
Ce qui ressemble bigrement à une mise sous tutelle de la ville dans le domaine du logement indécent. Julien Denormandie, qui a même affirmé être le ministre du logement des Marseillais.
Étienne Baudu, le correspondant de RTL à Marseille. Aux États-Unis maintenant, rebondissement aujourd'hui dans l'affaire russe qui obsède Donald Trump.
Et c'est une mauvaise nouvelle pour le président américain alors qu'il ne cesse de répéter qu'il n'a eu aucun contact avec les Russes pendant sa campagne électorale. Son ancien avocat vient de plaider coupable, Philippe Corbet. Il reconnaît avoir menti devant le Congrès sur ses contacts avec les Russes.
Oui, Michael Cohen était l'avocat personnel de Trump. Il avait un bureau à la Trump Tower. C'était l'exécuteur des bases œuvres. C'est lui qui a acheté le silence d'une actrice porno. Cohen disait même qu'il serait prêt à prendre une balle pour Trump. Il est maintenant l'un des témoins clés des investigations du procureur Mueller sur l'affaire russe. Il a déjà été auditionné 70 heures. Alors, il a menti sur des projets immobiliers des Trump en Russie, de gros enjeux financiers. Pourquoi est-ce important? Les services de renseignement américains ont établi que le Kremlin a coordonné des interférences dans l'élection de 2016. Le procureur cherche à déterminer si la Russie l'a fait en lien avec la campagne Trump, s'il y a eu collusion. Le président semble de plus en plus fébrile. Il tweete régulièrement que c'est une chasse aux sorcières qu'il compare au maccartisme des années 50. Il vient de dire que Cohen ment, que ce n'est pas quelqu'un de très intelligent. Il y a deux jours, on avait appris que son ancien directeur de campagne, déjà emprisonné suite aux investigations du procureur, mais pour d'autres crimes, a lui aussi menti à Mueller.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis.
Donald Trump qui annonce par ailleurs qu'il ne rencontrera finalement pas Vladimir Poutine en marge du G20 à Buenos Aires. La rencontre était prévue samedi.
À tout à l'heure, 18h30, Céline.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Venez comme vous êtes, mais surtout lavez-vous les mains. De la matière fécale a été retrouvée sur tous les écrans tactiles des McDo britanniques. Mais cette matière fécale, en trouve-t-on ailleurs? Apparemment oui, pas que dans les McDo, Jacques Serret.
Oui, je vous le confirme, des traces de caca, puisque c'est de ça dont il s'agit. Il y en a presque partout, sur tous les objets du quotidien. Les cartes de restaurant, par exemple, 6 sur 8 comportent des traces de souillure fécale, selon une étude menée en Belgique. Les distributeurs de billets, c'est pareil. Vous savez, ces touches pour composer votre code. De véritables nids à bactéries, un distributeur sur deux serait souillé. Mais il y a aussi les rampes de métro, de bus, les claviers d'ordinateur. Et puis, Marc-Olivier, nos téléphones également. Une enquête menée au Royaume-Uni révèle qu'un smartphone sur 6 narcisse présente des traces de matière fécale.
Alors c'est dégueu, mais est-ce que c'est dangereux ?
Oui, ça peut l'être, surtout pour les individus dont le système immunitaire est affaibli. Les personnes âgées, les nourrissons, là, il y a un risque de contamination et des infections comme la gastro-entérite peuvent survenir. Pour le reste de la population, pas de grand danger à craindre. Nous sommes plus ou moins immunisés. Reste qu'il est toujours préférable de vivre dans un univers sain. Et pour cela, un seul conseil, lavez-vous régulièrement les mains.
RTL Soir, il est